sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo'. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, baffutello e sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per bimbindina chi ce l'ho?
Marcello,
son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza sono...
Bonsoir, benvenuti sulla Nina Domani a Palermo, Radio Galer 88.4 FM. Oggi, come tu le premiere, e tu assieme l'andi de moi, vous êtes à l'écoute de Nina Domani a Palermo, e de moi, surtout de Simone, che je vous remercie pour votre fidélité, on va dire, pour votre support. E n'oubliez pas d'écouter le podcast sul le site radiogaler.org, in tampanino domani a Palermo. A partir d'aujourd'hui, on dédiera un cycle d'émissions, c'est qu'on appelle une rétrospective, sur une réalisatrice, une réalisatrice italienne, qui est encore vivante, qui est jeune en plus, c'est la quarantaine. Et c'est Alice Rohrwacher. Alice Rohrwacher, même si elle n'a pas allemand, c'est parce que son père, il est d'origine allemande, il est d'Hambourg, mais elle est italienne, elle est née dans la province, elle est née à Fiesole, dans le département de Florence, une petite ville. Mais après, elle a vécu à Castel Giorgio, elle a vécu son enfance et son adolescence à Castel Giorgio, dans l'Ombrie, à côté de la ville de Terni, qui est la terre d'origine de sa mère et qui est aussi le lieu de travail de son père qui est apiculteur. On a trouvé une recension, un article qui disait: c'est dans la ferme de Castel Giorgio que Alba et Alice ont grandi avec du pain et du miel. Surtout, il poussait comme des fleurs dans une nature qui les contaminait l'imagination. Donc, on a introduit cette ferme, on voit la nature qui c'est quelque chose de fondamental dans tous les films d'Alice Rohrwacher. Et on a aussi introduit cette personne, Alba, qui est la sœur aînée de Alice. C'est la sœur aînée de Alice, c'est une grande actrice italienne qui a travaillé Alba Rohrwacher, qui a travaillé dans beaucoup de films d'essai. Donc elle a travaillé pour des réalisateurs qui venaient du théâtre, comme Emma Dante, dans laquelle elle joue le rôle de coprotagoniste avec le premier film d'Emma Dante, qui en France s'appelle Palermo, mais en Italie s'appelle Via Castellana Bandiera. Mais elle a joué avec des grands noms du cinéma contemporain. Et dans les années surtout 2010, elle a joué avec elle a joué par exemple dans La solitudine, l'ombre première de Saverio Costanzo, La bella indormie de Marco Bellocchio, Vierge sul Sermà de Laura Bispuri, Sangue del mio sangue de Marco Bellocchio. Donc on voit comme elle est vraiment une actrice qui joue des rôles très importants dans un cinéma d'auteur quand même. Elle a rapporté des différents primes, par exemple le David Donatello comme meilleure actrice principale en 2009 pour Il papà di Giovanna. Le Globe d'Or de meilleure actrice, Révélation de 2009, toujours pour le papa de Jovan, le Ruban d'Argent pour meilleure actrice en 2011 pour la solitude de nombre première, et ainsi de suite. En septembre 2011, elle est membre du jury du 68e Festival de Venise, présidé par la réalisatrice américaine Darren Aronofsky. Et en février 2016, elle fait partie du jury international du long métrage du Festival de Berlin, présidé par Meryl Streep. Et après, elle fait partie des différents jurys. Donc, Alba Rockbacher participe aussi à plusieurs films de sa sœur Alice et elle donne une touche de grande actrice, d'actrice vraiment compétente avec son art drammatique récitatif, à côté d'acteurs qui ne sont pas des professionnels, sont des acteurs non professionnels qui sont montés pour la première fois sur la scène. On revient alla realizzatrice, la sera Alice Rockbacher, che è le centre de notre étude, on va dire. On va dire che en 2005, elle participe en tant que co-realizzatrice, scénariste, metteuse en scène, montesse e direttrice della fotografia, alla realizzazione di un piccolo spettacolo, c'è un documentaire su una famiglia des artistes circassiens qui, vu les conditions routières de l'Italie où tout est devenu une autoroute, il était obligé de, parce qu'il s'est déplacé à cheval. Donc, pour ne pas être des phénomènes qui, pour le fait de se déplacer à cheval avec ses caravans, on préférait être des artistes plutôt que des phénomènes, vu le public dans ces aspects-là. Et donc, ils sont allés en Hongrie et ils ont vécu un moment en Hongrie où ils ont pu effectivement exercer l'activité circassienne parce que aussi le tissu routier, on va dire, lui permettait de pouvoir se déplacer à cheval avec les caravans, avec les chevaux et les caravans. Donc, ce documentaire sur ce film-là, c'est le premier travail en 2005 d'Alice Rockbacher. Et c'est un documentaire en noir et blanc qui est le réalisateur principal est Pier Paolo Giarolo. En 2008, elle est assistante réalisatrice et montesse de Tradurre, qui est un documentaire toujours de Pier Paolo Giarolo. Tradurre, c'est un film qui raconte les voyages de mots d'une langue à l'autre grâce au traducteur qui porte la valise et se sert de la guide au spectateur. La traduction est comme la langue devient un guide pour le spectateur. La langue devient un instrument de musique. Le traducteur devient un boulanger qui pétrisse les pains au quotidien. Ses débuts en tant que réalisatrice, on les aura en 2006 avec la réalisation de Fiumara, qui est un épisode du documentaire collectif Che cosa manca, qui est produit par Carlo Crestadina. On verra que Carlo Crestadina, qui est le fondateur de la maison de production Tempesta, c'est quelqu'un de très important pour Alice Rockbacher. Rohrwacher, qui a produit en Italie beaucoup de films de grands noms comme Locker, comme de grands artistes internationaux, mais qui a aussi poussé Rockwagner et accompagné Rockwagner dans sa croissance artistique cinématographique. Et l'a poussé aussi à créer son premier film de fiction au-delà des documentaires. L'année 2011 est l'année des véritables débuts dans le cinéma avec le film Corps céleste, che on va analyser bientôt. Ce film-là est présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes de 2011 et lui a valu le prix de Ruban d'argent pour la meilleure réalisatrice débutante. Donc elle commence son premier film de suite, meilleure réalisatrice débutante. En 2014, elle reporte le Grand Prix spécial du jury avec, toujours au Festival de Cannes, avec le film Les Meraviglies. Et la même année, elle participe au film collectif NEF x 90, che è presente alla mostra di Venise. En 2018, elle rapporte le prix pour le meilleur scénario, au Festival de Cannes pour le film Lazzaro Felice. Je dirais que la plupart de notre analyse sur Alice Rockwagen se basera sur ce film là, Lazzaro Felice, che on verra après. On continue sa carrière. En 2023, elle réalise le moyen métrage Les Pupilles, qui est nominé aux Oscars 2023 dans la catégorie meilleur court métrage. Et elle revient de nouveau à Cannes en 2023 avec le film qui vient de sortir au cinéma, La Chimère, avec Josh O'Connor dans le rôle principal. Qui, malgré le bon critique, il apparaît sous des primes spéciales, des prix spéciales au Festival de Cannes. Après cette brève introduction sur Alba et Alice Rohrwacher, on va analyser Corpo Céleste, ce film, son premier film, qui est un film simple qui a des teintes néoréalistes mais en même temps félinienne, on va dire, mais est extrêmement beau, surtout dans son message. La protagoniste du film, c'est une adolescente qui s'appelle Martha, et dans le film elle va avoir 13 ans. Donc elle revient avec sa mère et sa sœur aînée de la Suisse, où la famille avait déménagé pour des raisons de travail, pour se réinstaller dans sa ville de naissance, Reggio Calabria, Reggio de Calabria. Faut dire que Reggio Calabria est la ville principale, la ville plus importante, le chef-lieu de la Calabria. Rohrwacher a eu des difficultés pour trouver une fille qui pouvait interpréter ce rôle-là. Parce que même si elle a interviewé plusieurs filles de Reggio Calabria, elle avait tous l'accent très régional. Donc ce rôle-là ne se prestait pas à ces filles-là, même si elle était très intéressante, ces filles, elle était très intelligente. Mais parce que la fille était quelqu'un qui venait de Suisse, qui avait vécu toute sa vie en Suisse. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour trouver l'attrice principale, Martha? Elle a pensé à un ami, à une famiglia. Cette femme, elle avait une fille, et cette femme vivait dans la plus grande communauté hippie d'Italie, qui est en Toscane, c'est la Valle degli Elfi. Donc elle pense à cette fille, pourquoi dans la Valle degli Elfi cette fille elle grandit sans savoir la sous-structure de la société calabrese, donc elle rappresentait un peu la fille sans le poids de la société qui peut rappresenter une fille suisse, même si on sait qu'en Suisse il y a une sous-structure très forte, la sous-structure c'est ce que Marx définissait comme le poids de la société sull'homme. Cette sous-structure-là, même si en Suisse elle est très forte, elle est bien différente, beaucoup plus, on va dire, avancée, de celle qui a à Reggio Calabria, dans la région la plus arriérée dell'Italie, où encore il y a un mafia qui est très forte, qui c'è la 'Ndrangheta, e où encore il y a una mentalità très, très arriérée. Et donc, comme elle fait, elle ne veut pas, Alice Rohrwacher, elle ne veut pas faire un film sur la mafia, pas du tout, mais elle veut faire un film sur cette mentalité. Elle veut donner la vision qu'une fille de 13 ans qui vient d'un autre planète, on peut dire comme ça, a sur le sud de l'Italie, un sud stigmatisé, mais quand même réel, qui continue à exister même aujourd'hui. Et cette vision-là est donnée à travers les biais de la religion, parce que Marta, elle est en train de faire sa confirmation d'un côté pour s'intégrer à la communauté, surtout c'est ça, de l'autre côté parce que il faut faire ça à un certain âge, 12-13 ans, il faut faire la confirmation parce que tous les enfants font ça, tous les adolescents font ça. Au début, Rockwagner, il a passé des mois et des mois, il a vécu à Reggio Calabria pendant des mois et des mois, parce qu'elle voulait étudier un peu les abitudes, la mentalité, elle avait en tête de faire un documentaire, elle venait du documentaire. Mais après, elle a fait un film de fiction, son premier film de fiction, parce que Corpo Celeste, comme on a dit, c'est son premier film de fiction. Pourquoi? Parce que parfois la fiction peut être plus vraie du documentaire. Il ne faut pas forcément enregistrer avec un œil documentaliste la réalité pour parler du vrai. Alice Rohrwacher même, elle dit, si on fait un feuille en papier, ces fleurs en papier, parfois on dit, oh, on dirait un vrai, parce qu'il est tellement réaliste qu'il peut être vrai. Donc, à travers l'œil de la fiction, un œil de la fiction qui c'est quand même une fiction non fiction, on le sent là, l'empreinte du cinéma réaliste, on le sent l'empreinte du cinéma documentaliste, attraverso sia fiction non fiction, attraverso le sia della fiction on peut rappresenter le vrai. E le plot in inglese vuol dire le sujet principal d'un film, c'est ce concept de la religion, ma on doit considérer aussi che Marta è un adolescente, è un figlio che vive son adolescence a côté de sa sœur majeure, sa sœur qui est déjà majeure, pardon, sa sœur aînée qui est déjà majeure, elle a plus de 18 ans, elle a un copain qui vient régulièrement à la maison. Et Marta, pour la première fois dans le film, on voit que pour la première fois elle a les règles, elle commence à porter des soutiens-gorge, donc soutiens-gorge qui sont volés à sa sœur aînée et elle suscite la colère de sa sœur aînée. Donc, on voit comme ce monde-là de l'adolescence, de la puberté, du passage de l'enfance à l'adolescence est aussi exprimé. Et à propos de ça, je vous mets une chanson qui ne parle pas de 13 ans, mais qui parle de 20 ans. Ça, la chanson s'appelle pour la pointe 20 ans, 20 anni, di Claudio Lolli. C'est le passage de l'adolescence plutôt à l'âge adulte. Mais c'est très belle cette chanson. Cette chanson dira 20 ans, ni étudiant, ni poète. Et c'est une chanson bon, qui personnellement m'a tante, mais je chantais toujours quand j'avais 20 ans. Je vais vous la faire écouter parce que c'est d'une poésie exceptionnelle et aussi d'une délicatesse exceptionnelle. On l'écoute.
Anni tra milioni di persone che intorno a te inventano l'inferno, ti scopri a cantare una canzone, cercare nel tuo caos un punto fermo. Vent'anni né poeta né studente, povero di realtà, ricco di sogni. Vent'anni e non sapere fare niente, né per i tuoi né per gli altrui bisogni. Vent'anni e credi di essere impotente. vent'anni e solitudine, sorella, ti schiude nel suo chiostro silenzioso, il buio religioso di una cella, la malattia senile del riposo. Vent'anni e solitudine nemica, ti vive addosso con il tuo maglione, ti schiaccia come un piede una formica, ti inghiotte come il cielo un aquilone. Vent'anni uscirne fuori è fatica. Vent'anni e stanza ormai piena di fumo, di sonno, di peccati e di virtù, lasciandoti alle spalle un altro uomo. Dovresti finalmente uscire tu. Vent'anni e il vecchio mondo ti coinvolge nel suo infinito gioco di pazienza. Smusserai il tuo arco che sporge, sarai incastrato senza resistenza. Vent'anni, prima prova di esperienza. Vent'anni e ritagliare i confini di un amore che rinnova l'esistenza e ritrovarsi ai margini del nuovo, scontento della tua stessa partenza. Vent'anni e una coscienza rattrappita che vuole venir fuori e srotolarsi come tendere un filo tra due dita, vedere quanto è lungo e misurarsi. Vent'anni, fare i conti con la vita. Vent'anni e già vorresti averne 30, esserti costruito già in passato. Vent'anni e l'avvenire ti spaventa come un processo in cui sei l'imputato. Vent'anni, strano punto a mezza strada, il senso dei tuoi giorni si nasconde oltre quella collina l'hai scalata, di là dal mare, dietro le sue onde. Vent'anni, rabbia, sete e acqua salata.
Voilà cette belle chanson qui dit 20 ans, la chambre déjà remplie de fumée, 20 ans, ni poète ni étudiant, 20 ans, entre millions d'autres personnes, et tout est ça, impuissant, 20 ans, et la solitude qui te détruit, 20 ans, 20 ans, 20 ans. C'est très belle comme chanson. Et on revient à notre film, on revient à ces adolescents-là duquel on a parlé, on dit que Marthe est un adolescent, mais aussi ses copains du catéchisme sont des adolescents. Et il y a un gagaïsme vraiment porté à outrance de cette catéchiste qui continue à appeler les adolescents bambini. Bambini, ça veut dire les enfants, e l'appelle pas ragazzi. Ragazzi in italiano, ça veut dire les jeunes, on va dire. C'est une façon de dire qu'on n'appelle pas quelqu'un de 13 ans bambino, on l'appelle ragazzo plutôt. Elle ha un façon, ce catéchiste, de comment dire, de s'approcher à travers des jeux vraiment gaga, des chansons gaga, cette religion qui est vue d'un point de vue, comment dire, c'est vraiment la femme du Sud, la femme du Sud d'Italie qui n'était jamais exposée à une autre culture che la sienne, donc elle restait toujours enfermée dans son petit monde, dans son mètre carré, comme on dit en Italie, je ne sais pas si on le dit aussi en France. Cette fermeture, par esempio, on la voit dans les films, elle demande si va a Marta, ma avec un candeur tu paysan, elle demande, ma dans ton pays c'est comme ça, vous faites comment dans votre pays? Comme, elle n'est pas raciste en disant ça, elle est tout simplement bête, on va dire, elle est tout simplement ignorante, elle ignore la réalité au-delà de son propre village, de sa propre petite ville. Sa mission, c'est d'assister les curés, figure emblématique de ces petites villes qu'après on va voir, et d'évangéliser ces jeunes-là. Mais dans une optique, cette évangélisation-là, c'est une optique non raisonnée. C'est une optique qui accepte les dogmes et les principes de l'Église sans les comprendre dans leur vraie essence. Tout doit être pris par cœur, comme je vous disais, à travers des petits jeux, à travers des petites chansonnettes gaga. On voit le contraste entre ces principes moraux, ces dogmes de l'Église, on va dire, cette spiritualité, cette moralité, et en même temps, elle et les autres gens du village aussi, elles organisent des petites danses, des balletti, on va dire. Elles font danser vraiment des jeunes filles de l'âge de 7-8 ans dans une façon totalement irréelle, en imitant les soubrettes de la télé. Qu'est-ce que sont les soubrettes? La soubrette dans le théâtre des boulevards, c'était la cerveza allumée qui allumait les patrons. Dans soubrette en italien, c'est un faux ami, c'est la danseuse de variété dans les spectacles télévisés qui est plus déshabillée qu'habillée et qui est rien d'autre que la femme objet, qui est rien d'autre que la femme bombasse allumeuse qui sert à tirer pour des, on va dire, des spectacles qui sont, n'attirent pas normalement le public masculin, sert à tirer le public masculin parce qu'elles sont si allumeuse, si plus dénudée qu'habillée, voilà. À propos de cette vision de la religiosité, donc dans cette candeur et non compréhension de l'essence de la religiosité vraie, qui a la catéchiste, il y a un contraste profond entre cette vision de la catéchiste et la vision de Marta. Marta, en fait, la catéchiste impose d'apprendre par cœur une phrase à ces adolescents-là. C'est la phrase qu'après ils réciteront, ils diront lors de la cérémonie avec l'évêque, la cérémonie pour leur confirmation. Ils diront, Eli Lama Sabachthani. Se un frase tratta dell'Evangile selon Matthieu 27:46. Se demo aramen tire du psom vande un. E sont incompréhensibles ces mots pour tout le monde. C'est un aramen, c'est un des plus anciennes langues au monde. Sont incompréhensibles pour Marthe et sont incompréhensibles en même temps pour la catéchiste. La catéchiste, elle ne s'est même pas demandé qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là. Même si elle impose de dire cette phrase, et c'est la phrase principale sur laquelle se fondera toute la cérémonie de la confirmation de ces enfants-là, elle ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Et on le voit, on le perçoit dans le film, qu'elle ne connaît pas la signification de cette phrase. Mais par contre, Martha, elle aussi, elle ne connaît pas la signification de cette phrase, mais elle s'interroge. On la voit chuchoter tout seul dans sa chambre, Eli, Lama Sabachthani. Elle s'interroge sur la signification de cette phrase. C'est là qui se déclenche le parcours initiatique de Martha. En fait, ce film-là, j'insisterai sur ce mot parcours initiatique, parce que c'est non seulement cet adolescent qui a les règles pour la première fois, c'est le parcours même envers la religion, la vision authentique de cette fille. Je vous dis, c'est une fille qui n'a pas de sous-structure comme les autres filles du village. Elle est libre, cette fille, donc elle s'interroge, elle ha tutto un parcours initiatique, c'est un'iniziazione alla vita, ce film, attraverso le biais della religione, du catéchisme. Donc, peu avant la cérémonie, Martha trouve des chatons dans un local de l'église. Elle est pleine de joie, avec ses amis joue avec ces chatons-là, il y a beaucoup de tendresse avec ces chatons. À ce moment, la catéchiste arrive, elle dit « Allez !» Elle dit à l'homme tout faire de l'église, « Allez, ramassez ces chatons, enlevez-moi ces chatons. » L'homme a tout faire de l'église, prend sa mobilette, elle part, elle met les chatons sur un sachet, et Martha, elle court. Essoufflée, elle suit ces mobilettes-là, une petite mobilette qui va à 30-40 l'air. Elle suit ces mobilettes, cette petite mobilette-là. Elle arrive et l'homme s'arrête sous un pont. Dans ce pont-là, il y a en bas, il y a un tunnel, un sottopassaggio. Il frappe les sachets avec les chatons par terre, il les tue, et il jette ces chatons dans ce sous-passage-là où il y a de l'eau qui stagne. C'est là qu'il y a encore une fois le contraste entre la religiosité et l'amour qu'on a vu dans une émission précédente qui, par exemple, San Francesco, il avait cet amour pour les créatures. Les créatures sont les êtres créés par Dieu, donc les hommes comme les animaux, comme les plantes. Donc, d'un côté, il y a ce contraste dans cette mentalité. La religion, c'est un dogme, on doit l'accepter. On s'en fout si on apprend la religion aux enfants, aux adolescents plutôt. Et on lui, après, on va tuer devant ses yeux les animaux. Parce que les animaux sont sans signification, ne font pas partie de ces dogmes. Donc, là, il y a ce passage aussi qui est fondamental de la scène dans laquelle Martha ha l'exigence d'aller dans ce tunnel rempli d'eau. Il est vraiment rempli d'eau. Et elle constate que cette eau, c'est une eau stagnante. Le tunnel relie la banlieue de la ville à la mer. Et là... Vraiment, il y a aussi tutta la tematica che viene a Martha, che on va du début du film. Martha, depuis toujours, demande a sa mère d'aller à la mer, elle va aller à la mer. Mais la mer, au lieu d'être tutelée dans cette ville du sud d'Italie, elle est un entrepôt à ordures, un entrepôt à poubelles. Il y a même des difficultés physiques pour rejoindre la mer, même s'il est à proximité de la ville. Il y a par exemple la bretelle de l'autoroute qui divise la mer de la ville, donc quelqu'un qui veut aller à pied à la mer, il ne peut pas aller à Marte, il ne peut pas rejoindre la mer. Il y a un obstacle physique à rejoindre la mer. Et on voit comme cette petite ville qui est Reggio de Calabria, ha des banlieues et des bâtiments qui sont à moitié construits, l'autre moitié laissés dans les squelettes des ciments et des barres de fer. Il y a une campagne, parce que c'est une petite ville, donc la campagne est vraiment très poche, à perte vue, à côté della ville, tout de suite la campagne. Mais c'est une campagne plein d'engombrants, laissée comme ça traîner, avec la poubelle qui traîne partout, avec une église d'un modernisme hyper moche, l'église où il va Marte à faire la confirmation, moche, anonyme. Tout ça constitue le décor du film. Sur ces thématiques liées all'écologie, liées à ce qu'on verra, le cultural studies, plus en particulier all'écocritique, qui c'est une thématique très chère a Alice Rockwager, ça c'est une thématique qui reviendra dans tous ses films. C'est une thématique qui le rapport entre ville, ville sale, ville corrompue, e nature à proximité, la nature qui est aussi une nature un peu contaminée par la ville quand elle est vraiment à côté de la ville. Ce rapport-là reviendra dans tous les films d'Alice Rohrwacher, excusez-moi. Et on va voir comme là Marta a perdu cette stagnante du tunnel, donc n'arrive pas à récupérer les sachets avec les chatons morts. À ce point-là, elle fait le parcours en arrière. Elle revient en arrière et elle se retrouve dans cette fameuse bretelle de l'autoroute. Et là, dans cette bretelle très dangereuse, le curé rencontrera et la fera monter sur sa voiture. Il est obligé par le circostanze à la faire monter. Il a perdu sa mère travaille, ne répond pas au téléphone. Donc, ce curé, ce jour-là, qui c'est le jour de la confirmation, il doit aller, avant della confirmation, aller récupérer un crucifix dans un autre village. Il est obligé à prendre Marta avec lui pour aller récupérer ce crucifix et après l'accompagner pour faire la confirmation, qui sera le soir. On va voir la figure de ce curé-là. Et pour me, pour cet personnage du curé, il faut dire che dans cette ville, ce curé è un curé déjà lui-même, il est en quête de pouvoir. Il veut abandonner la paroisse de Reggio Calabria pour avoir un paroisse plus important, on suppose plus civilisé, je ne sais pas. Donc lui, pour faire ça, il veut faire carrière, ce curé-là, et donc il, sous l'autorité de l'évêque, il se charge de raccolter des signatures pour les candidats d'un parti proche à l'église. On voit comme il va chez la mère, dans l'appartement de la mère a Marta, dall'appartement de Marta, donc dall'appartement des voisins de Marta, il va incasser le loyer, donc il incasse les sous pour les biens de l'église. On voit ce pouvoir de l'église encore si puissante dans cette ville si arriérée, mais quand je parle de la Calabre de cette façon-là, ou de la Sicile ou d'autres régions du sud de l'Italie et même du nord, je ne vais pas me mettre dans une position où la France est plus moderne, parce que la France aussi a ses défauts, mais il y a vraiment cette emprise par exemple de l'Église qui maintenant ici s'est perdue. Et à propos de cette emprise de l'Église, je vais vous faire écouter une chanson en patois sicilien che è un chanson di un grande chanteuse siciliano des années 70 qui s'appelle Rosa Balistreri, très très engagée cette chanteuse. E cette chanteuse là, ce chanson s'appelle Mafia e Parrini. Mafia e Parrini si vuol dire la mafia e le curé e le prêtre, e après il dirà la mafia e le curé se sont serré la main. Ça veut dire ils vont d'amour et d'accord parce qu'ils ont le même intérêt. Et on va écouter cette chanson-là. Je vous laisse l'écouter.
On est bien félix, bien. La mafia, elle est barrée. La mafia, elle est barrée. Si rettero la mano, povero cittadino, povero paesano, è mafia, è sanci suga, povero cittadino, povero paesano, e mafia e parrini si dettero la mano, e mafia e parrini si dettero la mano. Uno isa la croce, da spara, o non minaccia un farno, la voce la lo para, è mafia e parrini, si dettero la mano, è mafia e parrini, si dettero la mano, e siamo sordi o muti, ste catene Sicilia voli gloria e mafia e parrini e mafia e parrini si dettero la mano e mafia e parrini si dettero la mano.
E voilà che questa chanson di mafia e curé se sono serré la main, l'un il menace avec le fusil, l'autre menace avec l'enfer. On revient à ce curé là qui prend Marthe dans sa voiture et il la ramène à récupérer ce crucifix. Ce crucifix, il est où? Il est dans un village. Ce village, c'est pas loin de Reggio Calabria, c'est un village abandonné, totalement désertique, il y a les maisons en ruine, et c'est quand même le village où ce curé il a grandi. Donc on comprend qu'il a un fond dans ce curé, parce que le rapport qui, entre campagne et ville, c'est toujours un rapport, dans la Rohrwacher, c'est toujours un rapport entre valeurs et principes solides et corruption. Dans ce village, il rentre dans la vieille église, il prend ce très beau, magnifique crucifix, il se le charge sur les épaules, quand un moment arrive en vie, pam, il commence à le frapper. C'était l'ancien curé du village, la seule personne qui est restée au village. Et il croyait que c'était un voleur, le nouveau curé. Après, il comprend, il prend le crucifix. À ce moment-là, le curé disappare avec le crucifix. Et Marthe voit ce vieil-là, seul dans ce village, et lui demande, excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la fameuse phrase qu'on a vue? Eli, lama sabachthani. Et ce qu'il a dit, cette phrase, c'est une phrase qui est un cri, c'est pas une phrase. C'est un cri que Jésus a fait au moment de sa crucifixion. Parce que, pourquoi? Parce qu'il avait peur, il avait très peur. Et donc il a crié, Mondie, mondie, pourquoi tu m'as abandonné? Et là, c'est la clé de voûte. Le parcours initiatique de Martha est arrivé à son point. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Jésus, le fils de Dieu, est avant tout le fils de l'homme, pour Rockbacher. Et avant tout le fils de l'homme, avant tout le fils de l'homme, parce qu'il a peur. Il a des doutes. Et il doute sur son propre père, sur son propre Dieu, qui est lui-même, fils de Dieu, il doute sur Dieu, qui l'a abandonné à un point de mort. Pourquoi il le fait mourir? Et là, qu'est-ce que c'est la confirmation où la cérémonie s'ouvre avec cette phrase en allemand? La confirmation, c'est rien d'autre le fait de confirmer sa propre foi, même dans les moments les plus désespérés de la vie, même quand on est en train de mourir. Ça, c'est la différence énorme entre Martha et la religiosité della Rohrwacher, qui voit Jésus comme un fils de l'homme, qui voit Jésus comme quelqu'un qui a peur, pas comme un Dieu qui est toujours sûr de lui. L'umanité de Jésus est la différence entre la vision de Martha della Rohrwacher e la vision della catéchiste. La catéchiste, un moment, reciterà: crede in un Dio onnipotente, je crois en un ciel Dieu, je crois, avec force, vigueur, véhémence. Elle frapperà e gifflerà Martha, parce que jusqu'avant elle avait ri, parce qu'elle était tombée accidentellement. La catéchiste était tombée accidentellement. Et pendant qu'elle récite cette prière, je crois, comme un drapeau de sa foi, elle dira, je crois, et ce gifle sarà la gifle che l'évêque te donnerà, la gifle symbolique che l'évêque te donnerà au moment de ta confirmation. Sarà ça la gifle che l'évêque te donnerà, e la frappe. Donc, il y a cette religiosité aveugle, cette ostentation, cette force dans sa propre foi, mais qui est sans la comprendre, sans voir Dieu comme un fils de l'homme, mais plutôt le voir comme un Dieu. Comment dire, un Dieu qui n'a pas de peur, qui n'a pas de doute. Donc la religiosité, appris par cœur, on va dire, récité par cœur de la catéchiste, è la religiosité de Martha. La religiosité de Martha è una religiosité libre, una religiosité sans préjugés, mais plutôt qui veut comprendre et voir la vraie nature des choses. À propos de cette religiosité de la Rockbacher, naturellement de Martha, on va écouter une chanson qui est une belle chanson, qui est juste pour l'appoint une chanson de Guccini, Francesco Guccini, qui s'appelle Vendredi Saint. Vendredi Saint, c'est le jour où Dieu est tué, où Dieu est mort. Et à l'époque, en Italie, pour le Vendredi Saint, on ne mangeait pas de viande, les églises, il avait des gros draps de couleur violet qui représentaient la mort de Jésus. On écoute ces chansons aussi très belles et délicates.
Venerdì Santo, prima di sera, c'era l'odore di primavera. Venerdì Santo, le chiese aperte mostrano il mio. Cristo è morto, venerdì santo, pieno di incenso, sono le vecchie strade del centro, o forse polvere, che in primavera sembra bruciare come la cera. Venerdì santo, stanchi di gente, siamo in un buio fatto di niente. Venerdì santo, anche l'amore sembra languore, penitenza, venerdì santo, muore il Signore, tu muori amore, fra le mie braccia, voglio essere, resta soltanto dolce un ricordo, venerdì santo. Venerdì santo, prima di sera c'era l'odore di primavera, venerdì santo, le chiese aperte mostrano in viola che Cristo è morto, venerdì santo, viene l'incenso, sono le vecchie strade del centro, o forse polvere che in primavera sembra bruciare come la cera, venerdì santo, stanchi di gente, siamo in un buio fatto di niente, venerdì santo, anche l'amore sembra languore di penitenza, venerdì santo, muore il Signore, tu muori amore, fra le mie braccia, ove viene sera, resta soltanto dolce un ricordo, venerdì santo.
Et voilà, cette belle chanson de Vendredi Saint, Mère le Seigneur, toi tu mères mon amour, se référant à une femme dans mes bras. Vendredi Saint, les églises montrent au monde qui est mort, montrent en violet qui est mort. Vendredi Saint, on sent l'odeur de l'encens et au même temps du printemps. Très belle chanson. E Marta, dunque, quand elle est arrivée à cette réflexion sur la fausseté de la religion conventionnelle et sur la vraie foi qu'elle-même, elle part par ce parcours pour arriver à la vraie foi, à ce moment-là, elle se coupe les cheveux, un peu comme faisaient les femmes au Moyen-Âge essentiellement, même dans la modernité, avant de rentrer dans le couvent, elle s'est coupée les cheveux pour renoncer à sa propre liberté de femme, surtout. Mais elle s'est coupée les cheveux pas pour rentrer au couvent, plutôt parce qu'elle veut renoncer à faire la confirmation. Donc elle s'est coupée avec les ciseaux, vraiment, elle arrache les cheveux. La mère de Martha, qu'est-ce qu'elle fera? Elle la convaincra à faire la confirmation à la fin? Et Martha l'acceptera de la faire? C'est à vous de voir le film, c'est à vous de résoudre cette énigme. Je vous laisse en disant qu'avec Corpo Celeste se conclut le premier film de la trilogie du Sacré de Alicia Rohrwacher. Et il faut dire che la direttrice della fotografia è Hélène Louvard, che è una collaboratrice preziosa dalla direzione du son e della fotografia, dal suo premier film della Rockwagner, ma aussi da tous les autres long métrages e non seulement ma aussi pupille la collaborè, le film e tournée en pellicule, en 16 mm, donc c'est de l'artisanat du cinéma en ce moment où tout est numérique, e tournée avec un caméra mobile. Donc il y a d'un côté cet artisanat du cinéma qui est un choix de la directrice de la photographie et de la réalisatrice en même temps, et de l'autre côté la beauté de ces images par pellicule qui donnent un sens plus une visualité différente au film, les couleurs sont différentes par rapport au numérique. Je vous dis à de lundi, merci de m'avoir écouté, vous êtes en compagnie de Simone et je vous laisse avec une autre très belle chanson de Lola Emmanuel, cette fois on va dans le monde espagnol du flamenco. Buon ascolto.
Todo es de color, todo es de color, todo es de color. Sus penas pidiendo la comprensión, quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vida, a ser consuelo en toda la herida, amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. El cardo siempre gritando y la flor siempre callado. Que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esa senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrama la Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos.
Me voy a vivir solito, porque aquí con tanta gente me puedo volver loquito. Y yo no sé qué es mejor, si emprender el camino de nuevo hacia ti, o buscar un nuevo destino muy lejos de aquí. Yo no sé qué es mejor, si buscar hasta encontrarte o esperar a que se apague esta hoguera de pasión. Y yo te quiero, pero me da miedo que el amor siga creciendo y creciendo y creciendo, y cuando más alto esté, venga el orgullo jugando y lo rompa sin querer. Las flores de tu balcón lloran por verme, que lo sé yo, que lo sé yo, que lo sé yo. Las flores de tu balcón lloran por verme, válgame Dios, con lo bonita que eres y no tienes corazón. ¡Ay, qué dolor! O cuando la gente te pisa las flores de tu ilusión.